Comment devenir officiellement bouddhiste? N'oubliez pas. Nul besoin de se déclarer formellement bouddhiste pour tirer profit des pratiques et de l'enseignement bouddhique. Certaines traditions réservent même l'initiation formelle aux seules personnes qui choisissent la vie monastique et se contentent de demander aux laïcs qu'ils observent quelques préceptes de base. Pourtant, franchir le pas qui consiste à devenir un bouddhiste, cela peut avoir une signification profonde sur le plan personnel et peut renforcer les liens avec un instructeur ou une tradition et dynamiser la pratique de l'adepte. C'est pour cela que de nombreuses personnes envisagent de faire ce pas significatif à un moment ou à un autre de leur parcours le long du sentier bouddhique. N'oubliez pas. Nombreux sont ceux qui associent le renoncement à l'abandon des biens matériels et des engagements liés à la vie en société, et à la poursuite d'une vie de détachement et de retrait du monde. En réalité pourtant, le véritable renoncement est un mouvement ou un geste interne, plutôt qu'externe, bien qu'il puisse certainement s'exprimer dans l'action. Dans de nombreuses traditions, devenir bouddhiste implique la reconnaissance fondamentale de l'existence cyclique. Écoutez le chapitre 13. Le monde dans lequel on obtient et on dépense, dans lequel on s'efforce de réussir, dans lequel on aime et on hait, ne procure ni satisfaction ultime ni sécurité. Autrement dit, si vous vous décidez à vous engager sur le sentier du bouddhisme, vous n'aurez à renoncer ni à votre famille, ni à votre carrière. En revanche, vous devrez renoncer à l'idée conventionnelle selon laquelle on trouve le bonheur en satisfaisant des préoccupations matérielles. Vous devrez vous opposer au message acharné de la société de consommation qui proclame que la prochaine voiture, la prochaine maison, prochaines vacances ou le prochain exploit vous libéreront une bonne fois pour toutes de votre insatisfaction et vous apporteront le contentement que vous recherchez si désespérément. Vous adoptez ainsi le point de vue radical selon lequel on ne peut obtenir de paix et de bonheur durable qu'en nettoyant son esprit et son cœur pour les débarrasser des croyances et des émotions négatives qui s'y trouvent. Qu'en ayant la vision profonde de la véritable nature de la réalité, qu'en s'ouvrant soi-même à sa propre vigilance et à sa joie inhérente, et qu'en faisant soi-même l'expérience de ce que le Bouddha a appelé la libération assurée du cœur. On retrouve le même virage à 180 degrés qui est nécessaire au niveau de la conscience pour devenir officiellement un bouddhiste au cœur de nombreuses traditions des grandes religions du monde. Jésus demandait par exemple à ses disciples de renoncer aux préoccupations matérielles et de le suivre. C'est ainsi que de nombreuses églises chrétiennes demandent encore à leurs membres qu'ils reconnaissent Jésus comme leur seul sauveur. Dans le bouddhisme, le metanyoa, littéralement « changement de conscience », prend souvent la forme d'une prise de refuge dans les trois joyaux. Le Bouddha, le Dharma et le Sangha. N'oubliez pas, dans de nombreuses traditions de pays asiatiques, prendre refuge, c'est ce qui définit l'adepte comme bouddhiste et les laïcs récitent les vœux du refuge chaque fois qu'ils visitent un monastère ou qu'ils reçoivent des enseignements du Dharma. Pour les pratiquants laïcs occidentaux, la cérémonie du refuge est devenue une sorte d'initiation à beaucoup de traditions, qui a une signification importante. Bien qu'elle puisse simplement consister en la répétition d'une prière ou d'une psalmodie, la cérémonie du refuge implique que l'adepte se tourne vers le Bouddha, le Dharma et le Sangha, et qu'on les considère comme la source de son orientation et de son soutien spirituel. Lorsque l'adepte traverse l'insatisfaction et la souffrance, il ne suppose donc pas immédiatement qu'il pourrait améliorer son sort en gagnant davantage d'argent, ni en prenant le bon antidépresseur ou en trouvant un meilleur emploi, bien que ces trois choses puissent être utiles à un niveau limité. Au contraire, il réfléchit en prenant l'exemple du maître éveillé, le Bouddha qui découvrit le sentier menant à une vie libérée de la souffrance. Il trouve des conseils empreints de sagesse dans son enseignement, qu'on appelle Dharma, et il recherche le soutien de ceux qui ont les mêmes affinités, c'est-à-dire les membres du Sangha ou communauté. De nombreux bouddhistes renouvellent leurs vœux de refuge chaque jour pour se rappeler leur engagement. Si vous décidez de prendre refuge dans les trois joyaux, il pourrait sembler que vous allez vous mettre à compter sur des forces extérieures à vous-même pour votre propre paix de l'esprit. Pourtant, Le sens plus profond que font passer de nombreux grands maîtres semble indiquer que les trois joyaux se trouvent finalement en vous, dans la vigilance et la compassion inhérentes de votre propre esprit et de votre propre cœur, qui sont identiques à celles du Bouddha. N'oubliez pas. Outre la prise de refuge, l'engagement à observer certains préceptes d'éthique ou règles représente une étape importante dans la vie d'un bouddhiste. Des traditions différentes mettent sans doute l'accent soit sur le refuge, soit sur les préceptes, mais dans leur essence, toutes s'accordent sur le fait que c'est à la fois la prise de refuge et l'observation des préceptes qui marquent vraiment l'entrée d'un adepte au sein de la communauté bouddhique. Si vous êtes un adepte du Vajrayana, par exemple, vous allez généralement formaliser votre engagement en prenant refuge, puis plus tard en prononçant ce qu'on appelle les vœux du Bodhisattva, dans lesquels vous ferez vœu de placer le bien-être des autres avant le vôtre. Lorsque vous prenez refuge, vous recevez en général un nom bouddhiste pour bien marquer le début de votre nouvelle vie en tant que bouddhiste. Si vous adoptez la tradition zen, alors vous allez au contraire approfondir votre engagement en suivant une cérémonie dans laquelle vous accepterez d'observer 13 préceptes et, comme dans la tradition Vajrayana, vous recevez un nouveau nom. Pour en savoir plus sur les préceptes que reçoivent ceux qui se font moines, écoutez la section « Comment devenir un moine ou une nonne bouddhiste » plus loin dans ce chapitre. Les 13 préceptes du zen incluent les 10 préceptes solennels. S'abstenir de tuer, s'abstenir de voler, s'abstenir de rapports sexuels préjudiciables, s'abstenir de mentir, s'abstenir de consommer des produits intoxicants, s'abstenir de parler des fautes et des erreurs des autres, s'abstenir de se vanter et d'accuser les autres, s'abstenir de céder à l'avarice, s'abstenir de céder à la colère, s'abstenir de profaner le triple joyau du refuge. La cérémonie des préceptes zen complète inclut également les 3 préceptes purs, de même que les 3 refuges que sont le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Les préceptes purs sont s'abstenir de créer le mal, pratiquer le bien, réaliser le bien pour les autres. Il est intéressant de noter que la cérémonie du refuge Vajrayana comprend un engagement à agir de façon éthique et que la cérémonie des préceptes zen contient des vœux de refuge. Dans la cérémonie Theravada de l'Upasika, laïque engagé, telle que certaines communautés la pratiquent en Occident, les participants demandent à la fois à prononcer les vœux du refuge et à recevoir les préceptes. Dans tout le monde du bouddhisme, le refuge et les préceptes vont main dans la main et se renforcent mutuellement. Certaines traditions bouddhiques, y compris le Theravada, enjoignent les laïcs à observer une liste abrégée de préceptes, qui sont en général les 5 premiers de la liste que nous avons donnée plus haut dans le cadre de la tradition zen. Cependant, les moines et les nonnes adhèrent à un code de conduite plus complet, le Vinaya, qui comprend des centaines de règles. Pour en savoir plus sur l'observation des préceptes, écoutez le chapitre 12. Pour des informations sur les rapports entre la conduite éthique, la méditation et la sagesse, écoutez le chapitre 13. N'oubliez pas. Bien que certaines traditions de bouddhisme soutiennent que le fait d'entrer dans les ordres pour devenir moine ou nonne permet d'accélérer le progrès spirituel, toutes les traditions s'accordent sur le fait qu'il est possible d'atteindre le sommet de la pratique bouddhique, l'éveil, que l'on soit ou non moine ou nonne. Le Mahayana, notamment, écoutez le chapitre 4, propose des portraits saisissants de grands bodhisattvas qui étaient des laïcs, hommes et femmes, et maintient que vous aussi, vous pouvez suivre leurs traces. Si vous devenez bouddhiste en prenant refuge dans les 3 joyaux et en recevant les préceptes, vous vous engagez à consacrer le reste de votre vie à vivre selon ces principes et cet enseignement. Ce qui n'est pas une mince affaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans la plupart des centres zen, tous ceux qui sont présents dans la salle de méditation, moines comme laïcs, psalmodient à la fin de la méditation une version ou une autre de ces vers. Aussi innombrables que soient les êtres sensibles, je fais vœu de les sauver tous. Aussi inépuisables que soient les attachements ou illusions, je fais vœu d'y mettre fin. aussi illimités que soient les dharmas ou vérités, je fais vœu de les maîtriser. Aussi insurpassable que soit la voie du Bouddha, je fais vœu de l'atteindre. Avec ce type de promesse pour inspirer votre méditation, il ne fait aucun doute que dans cette vie, vous avez du pain sur la planche. En visant des objectifs aussi élevés que la compassion, l'abnégation, l'égalité d'humeur et finalement l'éveil complet, vous vous engagez à une vie entière de pratique et de développement spirituel. Bien sûr, vous pouvez à tout moment mettre un terme à votre engagement dans le bouddhisme sans répercussions karmiques, hormis celles qui pourraient se réverbérer à travers votre esprit et votre cœur. Dans le Vajrayana, pourtant, une fois qu'on s'est profondément engagé dans un instructeur, le fait de renoncer à ses vœux est un peu plus problématique. En fait, en Asie du Sud-Est, il est habituel, et l'on considère que c'est bénéfique sur le plan spirituel, que les laïcs, hommes et femmes, et parfois aussi les enfants, se rasent la tête et deviennent moines et nonnes pendant quelques jours. Après avoir pratiqué brièvement dans la communauté monastique, ils rendent leur robe et retournent à la vie quotidienne ordinaire, marquée de façon indélébile par cette expérience.